Bonjour, bonjour à tous, mardi 28 août 2018, bienvenue dans les voies de service sur Canal M. Je suis Louis de Bernis et je ne suis pas du tout seul comme d'habitude. J'ai avec moi Jean-Charles Algan,
bonjour. Bonjour.
Et Yves Olivier également.
Bon matin.
Nous sommes tous autour de la table et nous vous souhaitons effectivement un très bon matin et nous avons, comme d'habitude, plein de sujets à vous proposer. Quels sont-ils, Jean-Charles ?
Traverser le Canada sans argent et en français, c'est un pari québécois. Et puis ensuite, j'irai à Percé pour vous parler du nouveau géoparc admis à l'UNESCO. Et si nous avons le temps, je parlerai de la poutine qui fait une incursion dans le pays de Monsieur Poutine.
Enfin. De votre côté, Yves-Olivier, qu'avons-nous ?
Alors, de mon côté, ça va être un petit peu plus sérieux. Avec des capsules santé. Bah, moins drôle, mettons. Alors, on parle du sujet de vivre sans l'utérus. J'avais pas eu le temps de parler la semaine passée. Mais également de la science du langage non-verbal. Également, un sujet qui a tenu l'actualité, qui était dans l'actualité récemment, c'est les coyotes et les hommes peuvent-ils cohabiter ? Et enfin, l'industrie de la mode qui est invitée à élargir ses horizons.
Très bien, merci. De mon côté, bien comme d'habitude, pas mal de sujets insolites, détonnants, courts pour la plupart. Donc je jonglerai en essayant de trouver des liens, parfois même s'il n'y en a pas. Nous parlerons par exemple des Jeux asiatiques qui ont commencé cette fin de semaine. Pas mal de nouvelles assez animalières également. Nous parlerons par exemple d'un koala dans un avion, d'un lionceau qui a bien regagné l'Afrique. Pourquoi pas également... Ah oui, comment perdre son stage en deux tweets. Ça, surtout quand on a un stage à la NASA, ça peut arriver très rapidement. Eh bien, tout ceci, c'est dans quelques instants dans les voies de service.
Traverser le Canada sans argent et en français, le pari réussi de Jim Chab. C'est un texte de Mathilde Montaigne. Traverser le Canada sur le pouce, sans argent, sans téléphone cellulaire et en français seulement, c'est le pari réussi de Jimmy Chabot, un YouTuber québécois de 23 ans, mieux connu sous le pseudonyme de Jim Chab. Pour mettre à l'avant-plan, les francophones vivant à l'extérieur du Québec, cet ancien animateur de radio communautaire à Winnipeg a entamé le 1er juillet un périple de 10 000 km de l'est vers l'ouest du Canada en passant par le Yukon. La francophonie, Jim Chab en a fait une quête personnelle, lassé d'entendre parler du manque de budget pour les francophones au Canada, je me suis dit, ce sera ma mission de vie, les mettre à l'avant-plan, dit-il. Cet amoureux du Manitoba indique que c'est de là que lui est venue sa passion pour les communautés francophones. Il a travaillé pour la radio communautaire de Winnipeg entre septembre 2015 et septembre 2017 et a fait de la capitale manitobaine un point de passage obligatoire de son aventure. J'ai passé une semaine à Winnipeg à tenter de faire découvrir à mes abonnés les gens qui habitent au Manitoba, dit-il en ajoutant qu'il y a relevé le défi de trouver un camion-restaurant francophone. Il s'est ensuite rendu à la Broquerie pour rencontrer des partisans du Canadien de Montréal, mais aussi à Saint-Pierre-Joly pour participer à la fameuse course de grenouilles en français. Sa conclusion, on peut facilement traverser le Canada en français. Il reconnaît toutefois qu'au-delà de Whitehorse, lorsqu'on se dirige vers le nord, les choses se corsent. De Whitehorse à Toktoyaktuk, j'ai accepté d'être embarqué par des anglophones parce qu'il y avait parfois 2 heures sans qu'une voiture passe, avoue-t-il. Ce périple osé en a interpellé plus d'un. Avec fierté, le jeune homme mentionne que le commissariat aux langues officielles a publié un article à son propos paru dans le Toronto Star. Il a aussi accordé une entrevue à un célèbre animateur radio de Montréal, Paul Arcan. Son point fort, dit-il, c'est qu'il est sorti des sentiers battus. Ce n'est pas un trip about me and myself. Ce n'est pas un trip de voyage comme on en voit partout, dit-il. Oui, il n'a pas visité des lieux touristiques. Mon but était vraiment de rencontrer les gens et de raconter l'histoire des Canadiens français, explique-t-il. S'il estime que ce message est bien passé, ce qui a surtout intéressé les médias, admet-il, c'est aussi le fait qu'il n'avait pas un sou. Ce que les gens étaient avides de savoir, selon lui, c'était comment ils s'étaient nourris et logés sans argent par le biais des contacts humains. Il a démontré que tout était possible. Prenant la société contemporaine à revers, il s'est débarrassé de son portefeuille et de son téléphone cellulaire pour se rapprocher des gens. Ce voyage, explique-t-il avec conviction, lui a permis de se déconnecter de cette réalité virtuelle qui est totalement fausse et de se reconnecter avec des conversations. S'il doit retenir un élément de son périple, ce sera une famille de Whitehorse qui avait choisi de vivre dans une ferme sans eau, sans électricité et sans compte Facebook. Il explique qu'ils passaient ainsi la plupart de leur temps à nourrir leurs animaux et à se parler, ce qui l'a amené à prendre conscience que les médias sociaux n'étaient pas importants. « J'ai rencontré des gens avec une extrême générosité », dit-il. Il décrit une véritable expérience humaine, un voyage marqué par toutes sortes de gens qui l'ont aidé, hébergé, nourri, emmené. « C'est presque devenu des membres de ma famille », affirme-t-il. Jim Chab ne compte pas s'arrêter au Canada. Convaincu et passionné, il désire maintenant partir à la rencontre des francophones en Australie et en Asie.
Et partons en Asie justement, alors pas pour rencontrer des francophones, mais pour parler des Jeux asiatiques qui s'y déroulent depuis une semaine et qui avaient commencé en fanfare avec un record du monde à Jakarta. Au moins 65 000 personnes, incluant le président indonésien, avaient participé à une même danse folklorique dimanche il y a 3 semaines à Jakarta, un record du monde en nombre de figurants selon les autorités locales afin de promouvoir les Jeux asiatiques. Rangés en lignes et en colonnes, des hommes et des femmes, tous habillés en blanc et rouge, couleur du drapeau indonésien, s'étaient balancés, déhanchés dans le centre de la capitale lors de cette séance de Poco Poco, une danse originaire de la région de Manado dans le nord de l'île des Célèbes. Le président indonésien Joko Widodo, son épouse Iriana et des membres du gouvernement ont participé à l'événement qui s'est déroulé dans le parc du Monument National et des avenues de la ville vers 6h du matin, afin d'éviter la chaleur tropicale de la journée. « Nous effectuons une danse Poco Poco de masse avec la participation de 65 000 personnes, établissement un record du monde et montrant surtout que le Poco Poco vient bien d'Indonésie », a déclaré le chef de la police nationale, Tito Kamavian, qui a lui aussi participé à l'événement, ainsi que d'autres policiers, des militaires, des députés ou encore des étudiants. Aucune information n'a été donnée sur un éventuel précédent record, mais celui-là, c'est sûr, c'est le bon. Il s'agit d'une très bonne opportunité pour montrer que l'Indonésie conserve ses traditions, a expliqué un étudiant parmi les danseurs à Jakarta. Autre petite nouvelle concernant les Jeux asiatiques, celle-là est un peu plus récente, c'est un bébé qui a été baptisé Jeux asiatiques. Un couple d'Indonésiens passionnés de sport, j'espère, a baptisé Jeux asiatiques sa fille, dont la naissance a coïncidé avec l'ouverture du deuxième événement multisport au monde après les Jeux olympiques. On ne le sait pas assez. Le bébé, dont le nom complet est Abida Jeux asiatiques, est arrivé au monde avec un mois d'avance, quelques heures seulement avant la cérémonie d'ouverture de l'événement organisé à Jakarta et Palembang, ville dans le sud de l'île de Sumatra. Les parents, dont c'est le troisième enfant, ont voulu marquer le coup avec cet événement historique pour rajouter Jeux asiatiques au prénom de leur fille. Et ils espèrent que celle-ci s'intéressera au sport et deviendra une star. Si elle a le talent et la motivation, nous la soutiendrons, a déclaré sa mère Vera. Les parents ont aussi dit qu'ils laisseraient à leur fille, quand elle sera grande, la possibilité de remplacer Jeux asiatiques par un nom plus commun si elle le souhaite.
Toujours très particulier de rebondir sur tes textes.
Oui, c'est
et là j'ai trouvé. Parce que pendant que d'autres font des enfants et les appellent jeux asiatiques, d'autres doivent apprendre à vivre sans utérus.
Parfait. La transition est trouvée.
Voici donc un texte de Delphine Jung. Une délivrance, la solution miracle, une opération salutaire. Pour les femmes qui souffrent d'endométriose, l'hystérectomie, une opération chirurgicale qui consiste à se faire retirer l'utérus, est souvent le terme d'années de lutte contre des douleurs atroces. Toutefois, recevoir l'aval d'un médecin pour une telle intervention n'est pas une mince affaire. Certaines ont dû se battre pour obtenir ne serait-ce que le diagnostic de leur maladie en insistant sur leurs maux. Des nausées, des douleurs abdominales très fortes, au point d'être incapables de faire quoi que ce soit, ou encore des saignements abondants. Selon les données d'Endometriosis Network Canada, un organisme sans but lucratif, la maladie est diagnostiquée correctement après 10 ans en moyenne, alors qu'elle est généralement présente dès les premières règles. Accusées d'en rajouter, de ne simplement pas pouvoir aller travailler ou d'être douillette, certaines femmes se sont donc retrouvées face à un mur. Pourtant, l'endométriose occupe une immense place dans leur vie. Qu'elles doivent articuler autour de cette maladie, comme pour Cindy Sirois qui a reçu un diagnostic à l'âge de 27 ans. Le docteur Yann Brochu, spécialiste de l'endométriose à la clinique de la douleur du CHUM de Montréal, ne s'étonne pas de ces témoignages. C'est un discours qu'on entend souvent. Il y a encore la fausse idée que les règles sont forcément douloureuses. De manière générale, il y a une méconnaissance sur les menstruations, notamment car c'est un sujet complexe qui requiert l'implication de plusieurs spécialistes, lance-t-il. Pour ces femmes, la reconnaissance de leur maladie n'est que le début d'un long chemin de croix, car par la suite, traitements hormonaux ou encore laparoscopie, une opération qui consiste à observer l'intérieur de l'appareil reproducteur pour éventuellement brûler les taches d'endométriose, font partie de leur quotidien. L'hystérectomie représente le dernier recours. Cette opération est même providentielle, car l'utérus de ces femmes, c'est l'origine de leur mal. C'est comme une jambe avec de la gangrène, dit Cindy Sirois. Lorsque ces femmes prennent la décision de subir une hystérectomie, elles la prennent en connaissance de cause. Celle-ci a un prix et une ménopause précoce en fait partie. Lorsqu'on leur retire l'utérus, les trompes, les ovaires, ces femmes subissent de plein fouet les symptômes de la ménopause, comme la sécheresse vaginale, l'atrophie vaginale ou encore des bouffées de chaleur sans avoir eu de période de prémonopause, détaille la sexologue Jade Cousineau. Cindy Sirois a dû apprendre à faire l'amour autrement depuis qu'elle n'a plus d'utérus. J'ai 40 ans, mais j'ai le corps et la libido d'une femme de 70 ans. Avec mon conjoint, on s'aime autrement, témoigne-t-elle avec une certaine résilience. Pour certaines, il n'y a que le rire pour faire passer les mots. Avec mon conjoint, on essayait de dédramatiser, on essayait d'en rire. Mais c'est sûr que lorsque je suis avec un groupe d'amis, je me sens un peu seul, témoigne Caroline Thibault, ménopausée à 33 ans. Pour Annie Chabot, l'opération a plutôt été salutaire pour sa vie de couple. Avant, je n'arrivais pas à avoir de relations sexuelles sans que ça me fasse mal. C'est comme si j'avais des bleus à l'intérieur. Je sentais que j'étais limité, j'avais l'impression que mon conjoint méritait mieux. Il lui a toujours été très délicat et très compréhensif. Aujourd'hui, j'ai plutôt retrouvé une vie sexuelle normale, mais c'est aussi parce que je ne suis pas ménopausée, raconte-t-elle. Avant son opération, elle s'est beaucoup questionnée sur sa capacité à ressentir du plaisir sans utérus. Se faire enlever l'utérus, avec toute la dimension symbolique que porte cet organe, c'est finalement pour ces femmes un peu comme faire le deuil d'un membre qu'elles auraient perdu. La majorité des femmes qui souffrent d'endométriose ne sont pas forcément infertiles, mais sont sujettes à un risque élevé de fausse couche. Si l'ovule peut être fécondé, l'embryon aura pourtant du mal à s'accrocher aux parois de l'utérus. Pour multiplier leurs chances, les médecins leur conseillent de traiter au plus vite la maladie et de ne pas attendre d'avoir des enfants. Lorsqu'on a diagnostiqué mon endométriose à 16 ans, on m'a prévenu que mes chances d'avoir des enfants étaient faibles. J'étais jeune, ce n'était pas vraiment ma priorité, mais je savais que j'en voulais, raconte Caroline Thibault, qui s'est alors pressée d'avoir des jumeaux. Marie-Josée Corneau, 50 ans, est quant à elle l'une de ces femmes à qui la maladie a retiré le choix d'enfanter. On m'a enlevé l'utérus à 41 ans. Je ne suis pas carriériste, je rêvais plutôt d'apprendre des choses à mes nombreux enfants. Ce deuil m'a pris 5 ans. Pendant longtemps, je n'ai pas été capable d'en parler. Ne pouvoir être mère a créé un énorme vide en moi, mais les douleurs étaient encore trop atroces. Je voulais mourir. L'hystérectomie m'a sauvé la vie, mais c'est comme si on avait arraché quelque chose en moi, raconte-t-elle. Aujourd'hui, celles qui ont réussi à avoir des enfants, et notamment des filles, s'inquiètent pour leur avenir. Pour Annie Chabot, c'est une réelle angoisse. Ma fille a 11 ans. Je ne peux pas l'imaginer souffrir autrement que j'ai souffert. J'y pense constamment.
Oh baby, je me dis ça. Au voie de service, c'était Hubert Lenoir. Recommencez.
À Percé, un nouveau géoparc admis à l'UNESCO, signé Guillaume Roy. En avril dernier, l'UNESCO a accueilli un nouveau membre dans ses rangs avec l'arrivée du géoparc de Percé pour souligner l'héritage géologique exceptionnel du site qui accueille les touristes avec une foule d'activités. Suivez le guide. Qu'est-ce qu'un géoparc ? Témoin clé de l'histoire de la vie sur Terre, les roches parlent. Elles racontent l'histoire de la dérive des continents, de la sédimentation, de l'érosion, de l'évolution des espèces et plus encore. C'est lors du premier colloque international sur le patrimoine géologique et le géotourisme en 1991 que le concept de géoparc est né pour valoriser le patrimoine géologique des sites exceptionnels. En 2001, l'UNESCO commence à travailler avec les géoparcs avant de créer le réseau mondial des géoparcs en 2004. À Percé, il a fallu 5 ans de démarches pour développer le géoparc qui fait désormais partie des 140 géoparcs du monde, répartis dans 38 pays, dont seulement 3 au Canada. Une aventure interactive. Avant de partir à la découverte des trésors géologiques de la région, le parc permet de plonger dans l'histoire unique des roches de Percé grâce à une aventure multimédia qui se penche sur l'érosion, cet artiste aveugle, capable de détruire et de construire des monuments naturels à couper le souffle. Saviez-vous que le rocher Percé comptait 3 arches à l'époque de Jacques Cartier ? Ou encore que le fameux rocher est formé de sédiments marins qui se sont déposés au fond d'une mer tropicale il y a 410 millions d'années ? On y apprend également que la pierre rouge que l'on peut apercevoir sur le mont Sainte-Anne et l'île Bonaventure provient d'anciennes rivières éphémères qui ont transporté des montagnes de sédiments riches en fer. Parcourir la région de Percé permet de découvrir les vestiges de 5 périodes géologiques datant de 542 à 299 millions d'années, du Cambrien au Carbonifère, qui ont mené à la formation du bouclier canadien et de la péninsule gaspésienne. Pour accéder aux 23 géosites répertoriés, le géoparc offre 18 km de sentiers accessibles gratuitement. On peut entre autres repérer du bois fossilisé au coin du banc, un effondrement rocheux qui a donné naissance à un trou sans fin dans la forêt magique, énorme crevasse qui montre l'action et l'érosion sur les roches. Des belvédères permettent d'observer les phénomènes géologiques et géomorphologiques du secteur. Certains sites sont accessibles avec un véhicule motorisé et des forfaits guidés sont aussi proposés. Pour pimenter la visite d'une bonne dose d'adrénaline, le géoparc a construit une plateforme vitrée de 25 mètres qui donne l'impression d'être suspendu au-dessus du vide devant un panorama grandiose sur l'amphithéâtre naturel de Percé. À même le site, les visiteurs peuvent également filer à près de 50 km/h sur une tyrolienne suspendue à plus de 100 mètres au-dessus du sol sur une distance de 230 mètres. Il faut avoir minimum 7 ans et peser 65 livres. Minimum. Gardez les yeux ouverts pendant l'expérience, car vous pourrez observer le golfe du Saint-Laurent, le rocher Percé, l'île Bonaventure et le parc Forillon à l'horizon. Situé en plein cœur de Percé, le camping de la baie de Percé adjacent au géoparc offre 126 emplacements de camping, certains boisés. Il est aussi possible de louer l'une des tentes prêtes à camper isolées et chauffées en toute saison. Voilà, c'était à Percé, le nouveau géoparc admis à l'UNESCO.
Et nous sommes fin août, l'année universitaire va reprendre, certains retournent à l'université, certains auraient dû commencer un stage en entreprise et ne vont pas pouvoir. Je vous raconte l'histoire de cette jeune étudiante qui devait débuter son stage pas dans n'importe quelle entreprise, à la NASA, et qui l'a perdu pour une histoire bête, mais bête au possible. Là, c'est un petit défi que je me lance de vous lire cet article car Il y a deux phrases extrêmement vulgaires dans cet article qui sont du fait de...
On est avec toi.
...de cette étudiante. Je vais tâcher de vous les retranscrire sans les traduire littéralement parce que... Non, pas à la radio. Une étudiante qui vient d'obtenir un prestigieux stage à la NASA choisit de compter ses exploits sur Twitter dans un langage quelque peu vulgaire. Un internaute l'a pris d'être plus poli, elle l'insulte. Pas de chance, cet internaute va lui faire perdre son stage. C'est l'histoire qui est tirée du Figaro. Même dans un moment de joie immense, il faut savoir gérer son enthousiasme et peser ses mots. A fortiori sur les réseaux sociaux. Cette jeune stagiaire américaine en a fait les frais pour son plus grand malheur. C'est le site américain USA Today qui raconte cette fâcheuse expérience. Après avoir obtenu un stage à la NASA, prestigieuse, agence spatiale, elle décide de le clamer haut et fort et de le clamer sur Twitter. Que tout le monde ferme sa bouche, va-t-on dire. J'ai été acceptée à la NASA, tweet-elle de manière bien plus vulgaire que ce que je viens de dire sur son compte personnel. Le message est clair, mais le langage employé quelque peu douteux. Un internaute le lui fait remarquer de manière assez sèche. Language, point, répond un certain Homer Hickman pour tenter de raisonner la jeune stagiaire et l'inviter à surveiller son langage. La réponse de cette dernière, outrepassant très largement le stade du politiquement correct, se passe de commentaires. Un doux euphémisme serait, je vous invite à aller voir ailleurs si j'y suis, mais c'est particulièrement imagé dans la version originale. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais la réponse de Homer Hickman ne se fait pas attendre. Il explique tout bonnement que lui est membre du Conseil national de l'espace, soit l'organisme public qui supervise la NASA. En d'autres termes, un supérieur hiérarchique. USA Today précise également que Homer Hickman est lui-même un ancien ingénieur de la NASA, et pas n'importe quel, puisqu'il a inspiré le film October Sky. Ce court échange sur les réseaux sociaux a, semble-t-il, contrecarré le programme de Naomi, puisque cette dernière a par la suite perdu son stage. En effet, selon le magazine américain Newsweek, l'ingénieur aurait ensuite écrit sur son blog avoir appris que Naomi avait perdu son stage avec la NASA. Le dit message semble toutefois avoir été supprimé depuis, bien qu'il soit toujours archivé dans Google. Son texte explique notamment qu'il ne s'était nullement ému que la jeune stagiaire ait utilisé le terme « le F-word », comme on dit aux États-Unis, dans son tweet, qu'il avait simplement tenté de lui faire comprendre que son employeur pourrait, en revanche, peu goûter à ce langage. Homer Hickman certifie également qu'il n'a rien fait pour porter atteinte au stage de la jeune femme et n'avait de toute façon aucun moyen de le faire. Il explique que c'est probablement l'utilisation du terme « NASA » qui a permis à l'agence de trouver par elle-même ce tweet très relayé et commenté. La NASA n'a pas souhaité commenter cette affaire et les deux protagonistes auraient même discuté ensemble a posteriori, selon USA Today. Naomi a quant à elle tweeté qu'elle allait faire une pause pendant un moment. Hickman, lui, a indiqué qu'il faisait désormais son possible pour que la jeune femme puisse finalement effectuer son stage. Une histoire de recrutement lunaire pour un simple tweet.
On parle de la science du langage non-verbal. L'affaire d'une juge en Colombie-Britannique qui avait pleuré lors de la déclaration d'une victime dans une affaire de contact sexuel avec une personne mineure a suscité beaucoup de questions concernant l'importance que prend la communication non-verbale. La science peut-elle analyser le langage non-verbal? C'est un texte de Richard Massicotte de l'émission Les Années Lumière. La juge Monica McParland aurait en fait écrasé une larme durant le témoignage de la victime à ce procès de la cour provinciale de Kelowna. La magistrate en question a finalement décidé de ne pas se retirer de ce dossier, même si l'avocat de la défense le lui avait demandé. En refusant de se retirer de ce dossier, la juge a statué que faire preuve de compassion à l'endroit d'une victime n'est pas, selon elle, synonyme de parti pris. Le non-verbal est présent partout dans la vie de tous les jours. Cependant, dans les causes juridiques et particulièrement dans les procès criminels, le non-verbal peut avoir toutes sortes d'impacts sur l'issue d'un procès. Pour Vincent Deneau, avocat et doctorant en sciences de la communication de l'Université de Montréal, qui s'intéresse de façon très soutenue aux mensonges, à la crédibilité et au non-verbal, surtout devant les tribunaux, le non-verbal a de multiples facettes fascinantes. Dans les procès, le non-verbal, c'est plein de choses. le non-verbal des avocats, des témoins, des juges et même parfois le non-verbal des gens qui écoutent dans la salle d'audience peut jouer un rôle. Ces éléments sont pris en considération de façon consciente ou inconsciente par toutes les personnes présentes dans les salles d'audience et peuvent aussi être pris en compte par des décideurs. Et parfois, le non-verbal des témoins peut jouer l'évaluation de la crédibilité de ces personnes.
Vous écoutez les voix de service.
Plantée
Apollo et Pan, Canopée.
Suite du texte sur le langage non verbal. L'avocat Vincent Deneau dit avoir documenté les cas de 300 jugements québécois où le non-verbal est indiqué de façon très explicite. Si le non-verbal se retrouve de façon explicite dans un jugement d'un tribunal, on peut penser que le juge en a pris conscience de façon très précise. Autrement dit, le non-verbal peut affecter l'appréciation d'un témoignage sans même que le juge s'en rende compte. Mais s'il s'en rend compte, parfois cela peut même se retrouver dans un jugement. Pourtant, ces évaluations du non-verbal ne sont pas ou très peu fondées sur la science du non-verbal. Comme rien n'est simple dans le monde judiciaire, on ne peut pas inviter un témoin, même s'il est un expert, à témoigner sur la crédibilité d'un autre témoin, dit Vincent Deneau. Il y a une contrainte, c'est que la Cour suprême du Canada le dit très clairement. Un expert ne peut venir témoigner si l'objet central de son témoignage est la crédibilité d'un ou des témoins. Selon M. Deneau, la communauté juridique et judiciaire est toutefois ouverte à l'idée de devoir débarquer dans les salles d'audience la science du non-verbal. Je suis très content des interactions que j'ai pu avoir jusqu'ici avec des membres de la communauté de la justice. Mais il faut aussi maintenant que nous, les chercheurs scientifiques dans le domaine du non-verbal, prenions aussi la parole et que nous répandions nos connaissances et nos travaux. La science du non-verbal est multidisciplinaire. Ce sont des scientifiques qui œuvrent dans plusieurs disciplines, notamment en éthologie, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, en criminologie ou tout simplement en communication. Pierrick Pluskelec, biologiste du comportement, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal et directeur du Centre d'études en sciences de la communication non-verbale, estime que ce champ de recherche est encore peu connu du grand public. Pourtant, la science du non-verbal existe depuis environ 150 ans. Environ 15 000 ouvrages portant sur le sujet ont été consacrés. Le premier auteur, et non le moindre, à s'en être penché sur la question est Charles Darwin dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux en 1872. Mais il y a plusieurs techniques dites de décodage du non-verbal qui n'ont pas fait l'objet de validations scientifiques. On parle de programmation neurogestuelle, de morphopsychologie, de morphogestuelle ou encore de synergologie. Des techniques qu'on retrouve sur le marché et parfois même dans la formation donnée dans des entreprises. Selon M. Pluskelec, il faut d'abord établir si on a affaire ici à des travaux scientifiques ou à des élucubrations fantaisistes. Mais d'où vient donc cette division entre scientifique du non-verbal et l'apparition de toutes ces théories fantaisistes? Selon M. Pluskelec, cette division est venue de l'émergence assez récente de la science du non-verbal dans le domaine public. Parmi les premiers, il y a eu le psychologue américain Paul Ekman qui a créé une série télé appelée Lie to Me qui a popularisé tout ça. Sherlock Holmes est un autre exemple aussi. Et le public a voulu en savoir plus. Entre-temps, beaucoup de gens avaient montré plusieurs systèmes de croyances sur la lecture du non-verbal, sans vraiment savoir que c'était une science. Et là, en lisant pas mal de choses qui ne nous plaisaient pas toujours, on a décidé à notre tour de prendre la parole. Co-auteur d'un récent ouvrage intitulé « Votre intuition, ce super pouvoir », M. Pluskelec ne va pas jusqu'à dire qu'il ne faut jamais se fier à son intuition, mais avant d'interpréter ce qu'on voit, il faut vérifier, dit-il. Donc, avant d'essayer d'interpréter pourquoi votre interlocuteur se gratte le nez, se croise les bras ou regarde ailleurs, il faut s'assurer d'évaluer correctement ce langage non-verbal. Et pour ce qui est de détecter les menteurs, dit Vincent Deneau, le détournement du regard, souvent identifié comme un facteur déterminant dans l'évaluation du mensonge, eh bien c'est une fausse croyance. Car bien souvent, les menteurs vont au contraire vous regarder droit dans les yeux.
La Poutine fait une incursion dans la Russie de Vladimir Poutine. C'est Mélanie Marquis qui signe cet article dans la presse canadienne à Moscou. La Poutine a désormais droit de citer au pays de Vladimir avec leurs camions de bouffe. Masha Klimova et Alexei Kolesov avalent les kilomètres depuis 2017 pour conquérir le cœur et l'estomac de leurs compatriotes en leur servant le copieux mets originaire d'un pays avec lequel la Russie est présentement en froid. Les partenaires dans la vie et en affaires comptent planter le drapeau d'une première poutinerie à adresse fixe à Moscou cet automne. Après avoir passé les derniers mois à vadrouiller d'un festival à un autre pour tester leurs produits et mettre plein la panse à une clientèle ciblée jeune, dynamique et ouverte aux nouvelles expériences. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas encore crier victoire car il leur manque toujours l'arme secrète. Le fromage qui fait squish, squish. C'est ainsi que pour sustenter leur velléité expansionniste, ils accueilleraient à bras ouverts un allié du Canada qui serait prêt à leur révéler le mystère du précieux produit lacté, a signalé Macha dans un échange de courriels avec la presse canadienne. Appelons ça la diplomatie de la Poutine. Nous avons travaillé très fort pour adapter le mets à la clientèle russe en utilisant des produits locaux. Le principal problème, c'est le fromage en grains. C'est une sorte de fromage qui n'existe tout simplement pas en Russie. Aucun fromager ici n'a réussi à recréer ce fromage pour nous, a-t-elle raconté. Nous sommes parvenus à recréer quelque chose d'assez similaire, mais nous souhaitons améliorer la recette encore davantage, a poursuivi l'entrepreneur. Nous invitons donc tous les chefs canadiens qui seraient intéressés à venir ici pour nous aider à maîtriser le produit et en faire la version la plus fidèle possible à l'original. Passionnés de cuisine, Macha et Alexei ont toujours caressé l'idée d'ouvrir leur propre restaurant. En démarrant leur camion de bouffe, ils ont adapté la recette de la poutine au palais russe. Sur les réseaux sociaux, on peut lire des critiques culinaires de festivaliers qui ont goûté aux créations du couple. Depuis le début de l'aventure en 2017, Macha dit avoir vu défiler à son comptoir des dizaines de Canadiens. Nous avons eu des clients de Toronto, Montréal et Québec, dont certains ont offert des commentaires variés, qui ont, selon elle, mené à des améliorations continuelles du produit. D'abord, un nombre incalculable d'entre eux s'étonne de découvrir que le président de la Russie, Vladimir Poutine, a un mets qui porte son nom. Nous répondons chaque jour à des gens qui nous disent « Quoi ? Ai-je bien entendu ? Poutine, c'est un plat avec des frites au Canada ?» relate Macha. L'entrepreneur, qui a suivi une formation en journalisme à l'université de Moscou, précise que pour certains Russes, l'information s'avère difficile à digérer. Il arrive que des gens réagissent négativement à ce qu'ils nous reprochent de nous moquer du président. Par contre, c'est seulement une minorité de personnes. Sa propre initiation à la poutine remonte à l'époque où elle étudiait le français à son école de Saratov, dans un cours optionnel où l'on abordait notamment la culture québécoise. Elle est passée de la théorie à la pratique, goûtant au mets lors d'une visite en France. C'était ok, mais je sais qu'on peut goûter la meilleure poutine seulement au Québec, indique-t-elle. Tout de même, elle a apprécié l'expérience gastronomique. Je me suis dit que les Russes étaient habitués à ce mélange d'ingrédients et que ça leur plairait, a-t-elle ajouté. Car si les pommes de discorde entre Moscou et l'Occident sont nombreuses par les temps qui courent, leur affection pour le tubercule les unit. Aux États-Unis, au Canada, en Belgique et dans bien d'autres coins du monde, les gens aiment beaucoup les pommes de terre. La Russie n'y fait pas exception, fait remarquer Macha. Tout se passe bien. D'ici quelques mois, une version russe de stand à patates québécois aura pignon sur rue dans une rue moscovite. L'ouverture de notre premier restaurant est prévue le 1er octobre prochain et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous rêvons d'une chaîne de restaurants, prévient la jeune femme. Quelques poutines de la poutinerie. Et là, vous avez la classique à 250 roubles, ça veut dire 4,80 $. La chili con pollo à 350 roubles, le bœuf stroganoff, la poutine au bœuf stroganoff quand même, 350 roubles, la poutine au crabe, 400 roubles, ça veut à peu près 7,75 $, et enfin la poutine au saumon au caviar rouge pour 8,65 $.
Petit double article au sujet de l'aviation, avec une insolite d'abord, puis je vais essayer de vous apprendre quelque chose ensuite. D'abord, un koala parmi les passagers d'un vol vers l'Écosse. Les passagers d'un vol Düsseldorf-Édimbourg ont eu la surprise de voir un koala en cabine, avec son propre siège, voyageant dans le cadre d'un programme de conservation. Tanami, un adorable marsupial de 19 mois, a quitté le zoo de Duisbourg en Allemagne et a parcouru plus de 1100 km pour rejoindre le zoo d'Édimbourg. Les koalas sont des animaux très sensibles, donc il faut prendre des mesures particulières quand on les transporte. Ils voyagent en cabine, et pas en soute, afin que les soignants puissent s'assurer que tout se passe bien pendant le vol, a expliqué Darren McGarry, responsable des animaux au zoo d'Édimbourg. L'animal a voyagé dans une cage placée sur un siège. Le zoo d'Édimbourg a tweeté plusieurs photos du marsupial qu'on voit accroché à une branche entouré d'eucalyptus, sa nourriture préférée. Nous accueillons des voyageurs de partout dans le monde à l'aéroport d'Édimbourg, mais peu sont aussi spéciaux et aussi mignons qu'un koala, a réagi le directeur de l'aéroport. Tanami échange sa place avec celle de Tori, un jeune marsupial mâle vivant aux eaux d'Édimbourg et qui fera le voyage en avion la semaine prochaine vers l'Allemagne. Tori va tous nous manquer ici aux eaux d'Édimbourg, mais nous sommes fiers de le voir jouer son rôle dans la conservation des espèces. Les koalas, animaux emblématiques de l'Australie, sont en déclin dans ce pays. Ils sont victimes du changement climatique, de la perte de leur habitat, des attaques de chiens, des accidents de voiture, des incendies de forêt et des infections à cause d'une bactérie. Et restons dans l'avion, plus question de koalas, mais des agents de bord et des pilotes. Savez-vous où ils dorment lors des longs vols ? Dans les appareils Boeing, les pilotes vont dormir dans un espace situé près du poste de pilotage entre le plafond de la cabine et la carlingue de l'avion. De l'extérieur, la porte de ce compartiment ressemble à une porte de toilette, mais lorsqu'on ouvre, on voit une échelle qui monte vers cet espace où se trouvent deux fauteuils et deux couchettes, dit Christian Aveline, chef de service général, service en vol pour la base de Montréal chez Air Canada. Là-haut, les pilotes doivent se tenir accroupis. Lorsque les lumières sont éteintes, c'est la noirceur totale, il n'y a aucun hublot pour voir vers l'extérieur. Les agents de bord profitent d'un espace semblable mais vers l'arrière de la cabine. Le nombre de couchettes est plus élevé, même si évidemment, tous les agents de bord ne se retrouvent jamais à dormir en même temps. L'horaire est fait selon l'écart de travail précis. C'est ce qui explique qu'il y a plus d'agents de bord sur un vol Montréal-Tokyo que sur un Montréal-Paris, dit M. Aveline. Du côté des pilotes, la norme est d'avoir 4 pilotes à bord pour un vol vers l'Asie. Les vols les plus longs effectués par Air Canada ? Depuis Montréal, il s'agit d'un vol sans escale vers Shanghai qui frôle les 14 heures. Et le plus long, toute ville de départ confondue, reste le Vancouver-Melbourne d'une durée d'environ 16 heures.
Les coyotes et les humains peuvent-ils cohabiter ? Le 26 août 1996, le journaliste Jean-François Lesage souligne une abondance de coyotes dans la région de Vancouver. Dans un reportage proposé par l'émission Ce Soir, le journaliste affirme que 5000 de ces canidés habitent dans les alentours boisés de la principale ville de Colombie-Britannique. Ces carnivores ont souvent le ventre vide. Ils le remplissent fréquemment en mangeant les chats et les chiens domestiques, comme s'en désolent les autorités de la Société protectrice des animaux. Or, depuis les années 1960, on assiste à un nouveau phénomène. L'espèce, originaire de l'ouest du continent nord-américain, migre vers l'est. La nature ayant horreur du vide, le coyote occupe peu à peu l'habitat souvent abandonné par le loup dans l'est des États-Unis et du Canada. Il s'est ainsi établi dans les zones urbaines de cette région. Récemment, on a signalé sa présence dans la ville de New York, un peu partout dans le nord-est des États-Unis et en Ontario. Le coyote a également migré dans la région de Montréal. Là, comme dans les autres villes, la cohabitation avec les humains est difficile, voire dangereuse. Voyez ce qui est arrivé en 2009 à Taylor Mitchell. La torontoise marchait seule sur un sentier situé dans le parc national des Hautes Terres du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. 3 coyotes, probablement affamés, l'ont tuée. Taylor Mitchell est la première victime d'une agression par des coyotes en Amérique du Nord. Le journaliste Benoît Livernoche nous raconte ce drame ainsi que la réaction qu'il a engendrée dans un reportage présenté à l'émission La Semaine Verte le 9 mars 2013. À Chétican, la communauté qui vit à proximité du parc national s'inquiète. Pourquoi se demande-t-on une telle attaque est-elle survenue ? Un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles de Nouvelle-Écosse propose une réponse qui expliquerait ce comportement. Dès que l'on commence à nourrir les animaux, ils deviennent alors confortables avec la présence des humains. Il y a donc une habitude qui se développe chez eux. Les problèmes commencent lorsqu'on retire cette nourriture qu'on refuse d'en donner. Ils peuvent alors devenir très agressifs. La réaction des autorités du parc a été de permettre la chasse aux coyotes dans le but de leur apprendre la peur des humains. Plusieurs biologistes contestent cette approche et proposent une alternative plus pacifique. Les coyotes sont de plus en plus nombreux en milieu urbain. Il existe des règles élémentaires pour cohabiter pacifiquement avec eux. Ne les nourrissez jamais. Ramassez vos restes d'aliments lorsque vous quittez une aire de pique-nique. Dans les quartiers susceptibles d'héberger des coyotes, placez vos sacs poubelles de préférence dans des contenants rigides.
Objet culte, le fauteuil Pommard. C'est Muriel Françoise qui écrit ce petit article. Avant-gardistes pour leur époque, certains meubles, luminaires et accessoires de décoration ont résisté à l'épreuve du temps et inspirent les marques et designers C'est grâce à un film sulfureux que le fauteuil en osier pommard séduit les familles dans les années 70. Pour l'affiche, vous, messieurs, vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça. Pour l'affiche du long métrage érotique Emmanuel, en 1974, l'actrice Sylvia Kristel prend la pose en tenue légère sur ce siège, tout en courbe vêtue de Tahiti, dont le nom change subitement pour adopter celui de l'œuvre à laquelle il devra désormais son succès. L'origine de cet objet du désir est bien moins intrigant que ne le laisse supposer le fil rouge de ce film. Il voit le jour à la fin du XIXe siècle sous le règne de Pomar V, dernier souverain de Tahiti, qui céda son royaume à la France contre une pension et une médaille d'officier de la Légion d'honneur. Son neveu et fils adoptif, le prince Inoa, qui aurait mesuré 2 mètres et pesé 250 kilos selon la légende, se serait trouvé dans un tel fauteuil lorsqu'il a basculé dans l'autre monde. Le retour de la décoration bohème et des objets pour la maison en fibre naturelle ces dernières années a sorti de l'ombre ces sièges boudés un temps par la jeune génération. Il faut aujourd'hui écumer les boutiques vintage et les sites de vente de seconde main pour trouver les plus beaux modèles figurant sur les photos des blogueuses scandinaves qui ont compris que ces fauteuils se marient parfaitement avec des meubles aux lignes épurées. Plusieurs marques les produisent également dans les couleurs discrètes ou vives. La chaise Pomar ou Emmanuel est parfaite pour aménager un coin lecture dans le salon ou la chambre ou sur une terrasse. On peut l'habiller d'un châle, d'un coussin ethnique, d'un coussin ethnique ou même d'une peau de mouton. Pour rêver au voyage, on peut créer un style californien en ajoutant à la pièce des cactus, des palmiers ou d'autres plantes exotiques, mais aussi des tapis, des suspensions et des paniers en rotin, en raffia ou en bambou. C'était le petit côté ameublement.
Et Yves Olivier nous parlait juste avant de Coyote. Restons un peu dans la thématique. Je vous parle d'un lionceau. Un lionceau qui a été relâché en Afrique du Sud. Bon, ça peut arriver. Mais qui avait été découvert dans un appartement près de Paris. L'animal avait été retrouvé en octobre 2017 dans un appartement inoccupé de Noisy-le-Sec, au nord-est de la capitale française. Son possesseur, un homme de 24 ans, avait été interpellé après avoir été repéré sur les réseaux sociaux où il s'affichait avec le lionceau. Aujourd'hui âgé d'un an, King coule des jours heureux dans une réserve de 25 000 hectares en Afrique du Sud, indiquent les pompiers sur leur site. Le jeune lion a été accueilli par la fondation Born Free. La fondation délivre des soins quotidiens et accompagne l'animal toujours traumatisé par sa mésaventure. Pour lui permettre de s'acclimater à son nouvel environnement naturel, ajoutent les pompiers. Après la découverte du petit fauve, la justice avait ouvert une information judiciaire, notamment pour détention et transport non autorisé d'espèces animales non domestiques protégées. Son propriétaire avait été inculpé et placé en détention provisoire. Musicien, il voulait louer légalement un lion pour le faire apparaître dans un clip et avait fini par se voir proposer d'acheter un lionceau, avait à l'époque affirmé son avocate. Chaque année, les pompiers de Paris réalisent quelque 800 interventions concernant des animaux dangereux ou exotiques, tels des lézards, des iguanes ou des araignées. En 2016, un jeune tigre avait également été découvert en banlieue parisienne, où des dealers monnayaient des selfies en sa compagnie contre quelques euros. Le félin avait été abandonné lorsque la police s'était mise à sa recherche. Il avait heureusement été retrouvé et confié à un refuge du centre de la France.
Capsule mode. Ne porte pas des vêtements griffés qui veut. C'est ce qu'a constaté la rédactrice en chef du blog Ton Petit Look, Josiane Stratis. Contrairement à elle, certaines de ses amies qui font de l'embonpoint n'ont pas la chance de porter des créations de designers québécois, leur taille n'étant pas disponible. C'est cette situation qu'elle considère comme injuste qui a poussé la Montréalaise à lancer l'initiative Incluse. Grâce à l'obtention de financement, Josiane Stratis a décidé d'offrir des subventions à 7 designers québécois pour qu'ils adaptent 25 de leurs créations aux tailles fortes. Le public a pu voir les créations en question lors d'un défilé des tenues jeudi lors du festival Mode et Design sur la place des festivals. Et elles sont aussi vendues dans un petit kiosque mis sur pied pour l'événement. La photographe Julie Artacho a servi de muse à Josiane Stratis dans le cadre de son projet. La jeune femme d'une trentaine d'années qui travaille parfois dans le milieu de la mode se désole du manque de choix offert aux personnes en surpoids. Sa taille l'empêche souvent d'acheter des vêtements qui lui plaisent réellement. C'est vraiment récemment qu'il y a commencé à avoir une offre qui concordait avec mes goûts. Parce que souvent, la mode taille plus est assez traditionnelle, conservatrice, pas très audacieuse, estime-t-elle. Mercedes Morin est l'une des designers qui a accepté de collaborer avec Josiane Stratis pour son projet. Elle a adapté une camisole, une chemise et un sac banane pour les tailles fortes. Offrir ces modèles destinés aux plus grandes tailles représente des dépenses supplémentaires, explique la créatrice. Rendu à un certain point, le patron est tellement différent qu'on est mieux de recommencer à zéro. En temps normal, Mercedes Morin confectionne ses modèles en quatre tailles, de très petit à grand. Offrir ces mêmes modèles pour les tailles fortes, soit d'extra grand à triple extra grand, doublerait carrément ses coûts de production. Pour une designer qui en est à ses débuts, il s'agit d'un risque financier important, surtout si les créations ne trouvent pas preneur. Je renvoie la balle aux boutiques, ce serait à elles de nous commander davantage de vêtements taille plus. Il y en a plusieurs qui offrent à peine du large, explique Mercedes Morin. Les grandes chaînes de magasins de vêtements sont de plus en plus sensibles à la diversité corporelle. Chez Reitmans, par exemple, tous les vêtements offerts en boutique sont disponibles dans des tailles 0 à 22 ans depuis l'automne 2016. Les clientes en surpoids n'ont donc pas à se demander si certains articles sont offerts dans leur taille ou non. Ça permet à la cliente de choisir elle-même. On ne veut pas la changer, on veut qu'elle reste elle-même. On lui donne plus de choix pour créer les styles qui la mettent en valeur. C'est elle qui fait le choix du style qu'elle préfère porter, explique la présidente de Reitmans Canada, Jacqueline Tardif. Selon la directrice de l'école supérieure de mode de l'ESG UQAM, Marie-Ève Faust, les détaillants ont tout à gagner en offrant des vêtements destinés aux tailles fortes. Ils peuvent ainsi fidéliser un segment de la clientèle en pleine croissance. Allons les chercher, allons les gâter, faisons des vêtements qui vont leur plaire. Tout ça, c'est fait un effet d'engrenage qui est positif pour l'entreprise, estime-t-elle.
La Roumanie, grandeur nature. Merveilleuse terre de randonnée, la Roumanie n'a rien à envier à ses voisines d'Europe de l'Est que l'on préfère, les balades bucoliques ou les expéditions sportives en montagne, chacun peut y trouver son compte. Des forêts anciennes, parmi les dernières d'Europe, habitées par les loups et les ours, des massifs montagneux extrêmement bien préservés, des vallées encaissées, sillonnées de petites rivières ou de torrents, des alpages qui rejoignent les nuages, les villages perdus accessibles uniquement via des routes escarpées et caillouteuses, mais qui donnent un avant-goût du paradis. C'était dans le magazine Découverte, un récit de Sandra Cusson.
Merci Jean-Charles Algan. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci également à Yves Olivier. Et puis de l'autre côté de la vitre, là-bas, Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. C'est la rentrée, nous serons là toutes les semaines.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.
Au revoir.